Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. On est ensemble pour environ 30 minutes. Vous en avez l'habitude pour aborder trois thèmes de l'actualité de l'NBA. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en studio avec moi un one-two punch aussi à l'aise en NBA qu'en NCAA.
Rémi
Reverchon et Chris Singleton. Bonjour les gars.
Hello.
Bonjour Chris Singleton,
hello,
ça va
Larry.
Ça faisait longtemps.
Très bien. Oh, oui, c'est vrai.
Mais vous voyez jamais en fait.
Jamais.
C'est
tu me manquais beaucoup Chris.
Aujourd'hui au programme, on va parler évidemment du retour de Joel Embiid et ce que ça implique pour la suite de la saison du côté de Philadelphie. On parlera ensuite d'une rumeur qui ne cesse d'enfler, qui fait toujours l'actualité du côté de Los Angeles, celle d'une possible arrivée de Trae Young aux Lakers. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Et puis on parlera aussi de Victor Wembanyama, mais dans le cadre des Jeux Olympiques qui seront cet été évidemment à Paris. Quel rôle pour lui dans le collectif de l'équipe de France? Est-ce que ça peut être l'arme fatale avec Rudy Gobert dans la raquette? Voilà, on essaiera de démêler un peu tout ça. Joel Embiid, alors, de retour avec Philadelphie, de retour cette nuit, la nuit dernière, victoire contre OKC, 109-105, 24 points, 7 passes décisives, 6 rebonds en 29 minutes seulement. Chris, c'est déjà une très bonne nouvelle de revoir Joel Embiid sur les parquets. Est-ce qu'on peut attendre de lui qu'il retrouve son rythme de croisière d'avant blessure d'ici le play-in, les play-offs?
Je pense que c'est la raison qui revient maintenant. Parce que je ne pense pas, Philadelphie était en danger, peut-être qu'il allait rejouer aussi vite. Bon, ce qui m'inquiète un peu pour lui, c'est qu'il vient parce qu'il y a urgence. On sait, après les blessures... Aussi, là, hier soir, il fait un match, mais tout à fait correct pour un joueur qui n'a pas joué depuis très, très longtemps. Mais avec ces blessures-là, c'est toujours le lendemain, deux jours après, trois jours après, pour voir la réaction de son genou. Donc, évidemment, mais ça impacte tout, parce qu'avec lui, Philadelphie était une équipe qui jouait les quatre premières places. Troisième éventuellement.
Ils étaient cinquième à l'Est.
Ouais,
ils avaient la possibilité. Vraiment dans les eaux.
Non, mais ça fonctionnait tellement bien avec Maxi aussi. Ils avaient vraiment établi un jeu, comme tu dis, un one-two punch.
Il
est là. Et puis on a vu le désastre, le Titanic, quand il n'était pas là. Donc on sait que c'est pas évident. Sans lui, de toute façon, Philadelphie, pour moi, n'a aucune chance. Et c'était même possible qu'il tombe très loin.
Rémi, ton avis avec d'ailleurs sans Joel Embiid, Philadelphie c'était 11 victoires pour 18 défaites.
Ouais, non, c'était terrible. Sans Joel Embiid, évidemment, Chris a raison. Sans Joel Embiid, c'est plus du tout la même équipe. Ça joue un bas de tableau play-in, ric-rac, voilà. Moi, je suis quand même. J'ai deux visions sur ce retour de Joel Embiid. Sur le niveau de jeu, déjà, je suis quand même très rassuré parce que d'entrée, je l'ai trouvé bon. La défense, c'est comme si rien n'avait changé. L'attaque, faudra retrouver des sensations, normal. Le cardio, qui lui a beaucoup manqué sur son retour, mais il n'y a rien de plus évident. Le mec n'a pas joué depuis 2 mois. Ce qui m'emmerde un petit peu plus, c'est sa réflexion qui est venue après. Je ne sais pas si vous avez lu un peu le truc. Il raconte son état d'esprit, qui serait presque tombé dans la dépression suite à sa blessure. Il raconte que ça l'a beaucoup marqué.
Ouais.
J'ai pas l'habitude d'avoir. Pourtant, c'est un mec qui en a traversé des blessures en début de carrière. Il a raté des saisons entières. Là, on parle de 2 mois ratés pour un ménisque, ce qui est pas quelque chose de fondamentalement grave. Un petit peu surpris de ça. Mais non, moi je suis quand même hyper excité par ce retour parce que quel joli bordel ça va foutre dans la conférence Est. Là, d'un seul coup, Philly, on va pas se mentir, en début de saison, c'est un contender pour nous tous. À l'Est, on en a mis 3 des contenders, hein. Boston, Milwaukee et Philly, c'était les 3. Hein. Mais c'était avec Joel Embiid. Ils sont tombés aujourd'hui 8e place parce qu'il n'y a pas Joel Embiid. Il y a Joel Embiid, maintenant il va se passer quoi?
C'est une équipe qui vaut 3e, 4e et qui va jouer.
Ils vont jouer, alors, soit play-in, soit peut-être 6e place au mieux s'ils s'en sortent bien. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui aura fini 1ère, 2ème, 3ème qui va se manger Philly avec Joel Embiid au premier tour des playoffs. Imagine qu'ils fassent le play-in, ils sortent, ils vont prendre Milwaukee. On aura un premier tour Milwaukee-Philly.
Mais s'ils finissent 8e, ils jouent Boston au premier tour.
Mais bon, s'ils font le play-in.
Coucou les Celtics.
S'ils font le play-in, on peut penser qu'ils vont gagner leur premier match, qu'ils vont faire 7ème. Tu vois, je me dis. T'imagines ce premier tour, Giannis contre Embiid? Incroyable.
On rappelle quand même que Joel Embiid, sur les 34 matchs qu'il a joué cette saison, alors je compte pas celui de cette nuit, les 34 premiers matchs, c'était quand même 35 points de moyenne, meilleur scoreur de la ligue, potentiel MVP de nouveau.
Au début de saison, tout le monde était d'accord, Joel Embiid, voilà, il faisait une saison MVP avant la blessure. Ce que nous, on veut, je pense que c'est vrai pour tout ce genre de joueurs-là. On veut voir les play-offs avec ces joueurs comme ça qui participent. Bah, Embiid en play-offs, on veut Steph Curry. On avait peur quand on voyait les petits problèmes de Warriors qui ne sont pas totalement terminés. On ne voulait pas voir un play-off sans Steph Curry.
Le problème, je t'annonce, c'est qu'on verra un play-off soit sans Steph Curry, soit sans LeBron James. Ouais,
c'est sûr.
Il y en a un des deux qui ne sera pas là, je pense.
Voilà, tout à fait.
Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est mine de rien que Philadelphie, entre le début de saison et l'équipe actuelle, c'est une équipe qui a quand même un peu bougé à la trade deadline, qui a récupéré Bud Yield et Cameron Payne, qui a laissé partir, qui a fait partir Marcus Morris, Pat Beverley et Furkan Korkmaz, avec un Joel Embiid qui soit à son meilleur niveau. Est-ce que cette équipe actuelle avec un Bud Yield, elle n'est pas peut-être meilleure que celle qui a commencé la saison?
Buddy Hield, pourquoi pas, t'as raison Nico, mais le vrai truc, c'est la prise de dimension et de gap de Tyrese Maxey.
Bien sûr.
Qui a changé totalement de registre et qui est devenu un franchise player de fait en l'absence de Joel Embiid. Et maintenant, tu te retrouves numéro 1, évidemment. Et tu te retrouves, avec Joel Embiid qui revient, indiscutable numéro 1, c'est pas du tout le débat, mais avec un mec à côté qui a grandi pendant ce temps-là, Tyrese Maxey. Je sais pas, on va attendre de voir le niveau réel de Joel Embiid sur les semaines qui viennent, parce que mine de rien, dans 10 jours, c'est le play-in, c'est-à-dire les matchs à la mort subite, c'est hyper rapide pour lui pour revenir. Mais sur le papier, je répète, c'est ultra excitant d'avoir une équipe pareille qui peut venir foutre un bazar terrible dans le bracket des play-offs, c'est ultra excitant.
Voilà, puis on parle des joueurs, évidemment, Embiid, Maxey et tout ça. Pour moi, une des clés de réussite de cette équipe, ça, c'est Oubre, Tobias Harris, tous ces joueurs-là qui ne peuvent pas assumer sans Joel Embiid, un rôle de vraiment celui qui fait l'impact, qui fait gagner cette équipe. Mais vous imaginez, vous avez une force tranquille qui post-up en bas, et vous avez Oubre, Buddy Hield, Tobias Harris qui, on enlève un poids énorme, parce qu'on a bien compris depuis des années.
Oui, il n'aime pas trop le poids sur les épaules.
Il n'arrive pas.
et ce qui est aussi intéressant, c'est de constater que, évidemment, hormis l'ogre Boston, il n'y a pas vraiment d'équipe qui se dégage derrière les Celtics, parce que Cleveland, c'est toujours coussi coussa. Milwaukee, on a encore vu la nuit dernière que c'est pas une équipe.
Non, mais t'as raison.
Il n'y a rien de rassurant. À part Boston, il n'y a vraiment aucune équipe qui a de réelles certitudes. Les Knicks, il y a beaucoup de blessés. Et derrière, le Magic, il n'y a pas d'expérience. Il y a Indiana. Bon, c'est peut-être pas encore
un
projet au point.
C'est une conférence où, de toute façon, le classement parle est très parlant, tu vois. L'écart qu'il y a entre le 1 et le reste de la meute est représentatif du niveau réel.
C'est rare de voir un tel écart entre le premier et le deuxième.
Il y a 12 matchs d'écart entre le premier et le
deuxième. 12,5 là, je crois.
Voilà, tu vois, c'est énorme. Donc ça a du sens. Et moi, je fais partie des gens qui continuent de penser que la saison régulière NBA a du sens, beaucoup de sens. C'est un filtre terrible, 82 matchs à jouer. Ça en dit long sur ce que tu es. C'est un marathon, tu vois. Maintenant, alors si vous voulez qu'on se parle franchement là, on sait très bien que le seul adversaire réel de Boston dans ses playoffs aujourd'hui, je suis désolé si je vais en offenser certains, c'est Milwaukee. Parce qu'il y a Giannis Antetokounmpo, parce que tu peux pas le négliger, parce que c'est une équipe qui a gagné, qui est en train de récupérer Chris Middleton. Damien Lillard, on verra s'il revient à un niveau qu'on a connu par le passé. Mais sincèrement, du fond du cœur, je suis désolé si je fais mal aux fans des Knicks, si je fais mal aux fans de Cleveland, si je fais mal à qui vous voulez, de Miami, pourquoi pas. Mais le seul adversaire crédible aujourd'hui pour moi de Boston, c'est Milwaukee. Philly, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Je t'aurais dit il y a 6 mois, même pas, il y a 3 mois, je t'aurais dit Philly est avec Milwaukee. Maintenant, je demande à voir.
Moi, je pensais que tu allais dire l'adversaire de Boston, en fait, c'est Boston. Mais je l'attendais.
Soleil un peu, mais.
Et Chris, du coup, allez, playoff arrive là, Philadelphie.
Ouais.
Tu les vois aller où? Jusqu'où?
Il faut qu'ils rattrapent beaucoup de choses là. Ils sont en retard sur certaines choses. Je répète, il faut voir le après reprise de Joel Embiid, jusqu'à quel point il va retrouver toutes ses forces. C'est vrai, sur un match, on a dit, c'est Joel Embiid. Effectivement, défensivement, il a un gros impact. Offensivement, il a des skills, donc il n'y a pas de souci pour retrouver son shoot, pour retrouver sa puissance, parce que c'est un joueur qui joue en puissance quand même. Philadelphie, oui, ils peuvent espérer de passer un tour de playoff s'ils sont jusqu'à ce point-là. Mais tant que tu as Joel Embiid, Maxey, et je répète, avec tous ces joueurs de rôle autour, mais si Joel Embiid ne peut pas performer comme il a fait en début de saison, ou si jamais il sort, Paul Reed, ça ne sera pas la solution pour Philadelphie de faire quelque chose. Maintenant, je suis d'accord, ils ont la chance d'être dans l'Est, qui aujourd'hui, le classement en dit long. Les Knicks qui arrivent à rester dans les 4 premiers avec autant de blessures, autant de joueurs majeurs. Orlando, ça joue bien au basket, j'aime bien, c'est sympa comme histoire.
Mais c'est sympa. C'est,
ils sont dans les 4 premiers quand même. Ouais. Donc, effectivement, Milwaukee, j'ai jamais accroché à cette
depuis
équipe-là.
Depuis le début de saison, on dit à Milwaukee,
j'ai jamais
vous allez voir,
accroché
ça va
à cette équipe-là.
Quand
j'ai
ça va marcher, ça va.
J'ai
ça
pas va été, voilà, emballé par l'histoire de Lillard et Yanis. Je trouve que ça n'a jamais vraiment fonctionné long terme. Ça fonctionnait un match ou deux, mais ils n'ont jamais... Vous imaginez, on est aujourd'hui, on est à 6-7 matchs d'arriver au dénouement. Et cette équipe-là ne montre aucune régularité, aucune capacité de vraiment défendre comme il le faut pour l'équipe.
Bon, tu auras compris qu'il ne croit pas en eux, quoi. Milwaukee, ce n'est pas son truc.
Il ne pariait pas sur Milwaukee.
Pourtant, je n'étais pas fini.
On avait compris l'idée.
Bon, point, exclamation, j'y crois pas.
C'est bon, j'ai ma citation. Ouais. C'est bon, j'ai mon titre. Et du coup, Rémi, ouais, toi, tu...
Philly,
allez, tu alors, allez, faut se mouiller un peu.
Allez,
sachant que jouer à Embiid, on va quand même le rappeler.
Vas-y.
On n'a jamais joué de finale de conférence.
C'est vrai.
Ah oui, on sait.
Ça, c'est vrai que c'est une histoire. C'est une histoire sans fin, cette histoire-là. Je vois deux cas de figure. Cas de figure 1, Philly très fort la saison, réussit à shipper la 6e place. Playoff direct, ça laisse mine de rien une semaine de plus de repos à Joel Embiid et ça change un peu la donne. Et tu joues un 3e à l'Est qui devrait a priori être Cleveland, sauf surprise. Moi, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, désolé encore une fois les fans de Cleveland, je pense que Philly avec un Embiid qui revient à pas loin de 100%, passe face à Cleveland. Pour moi, ça fait second tour. Et alors là, c'est tout est ouvert face à Milwaukee au deuxième tour. Cas de figure numéro 2, tu passes par le play-in et donc tu te retrouves à jouer soit Boston, soit Milwaukee au premier tour. Et alors là, c'est feu d'artifice terrible parce qu'on a un premier tour Boston-Philly ou Milwaukee-Philly. Et alors là, c'est popcorn tout le monde. On se régale dès la première semaine, par contre.
Ouais, je suis assez d'accord. Chris, un mot à ajouter encore sur
Philly? Oui,
un mot
à ajouter. Même deux, si je veux bien, parce que c'est un podcast qui est sympa. On n'est pas d'accord, donc c'est parfait.
Ah,
parce
sûr,
que moi,
bien,
j'y crois énormément à Cleveland.
Ah, ok, d'accord.
Quand ils sont en bonne santé, je trouve qu'ils ont un racket qui est consistant, qui est régulier avec Mobley et Jared Allen. Jared je Allen. Trouve ça très très bien.
Ça passe face à Philly sur un premier tour de playoff là?
Oui.
Ah ouais?
Absolument.
Ah ouais. Okay. Moi j'y crois pas du tout. Moi je suis comme Rémi, perso.
Non mais. Évidemment, ouais. tout dépend et tout. Et c'est énormément. Mitchell, quel état il est, dans quel esprit surtout il est. Parce que, tout simplement, je pense que... Mais les deux, Mobley et Jared Allen, peuvent causer énormément de problèmes. C'est deux intérieurs qui sont très difficiles à garder. Hein. C'est des mecs qui courent, qui sautent,
qui bombent
défensivement. Donc, ils peuvent faire des rotations. Bon, c'est vrai que récemment, Cleveland nous a déçus un peu. Je suis un peu inquiet pour Garland, parce que je trouve qu'il a disparu un peu. Mais je trouve cette équipe-là très dangereuse.
Allez, ben on aura la réponse d'ici quelques semaines, j'allais dire un mois, mais peut-être même un peu avant.
Bah même pas dans 10 jours, on est en play.
Oui, c'est ça, 10 jours. Oui, mais genre Cleveland, du coup, pour avoir...
Cleveland en Philly, peut-être.
Mais Philly, ouais.
Oui.
On passe désormais aux Los Angeles Lakers. On change de conférence. Et je voulais revenir sur... voilà, Chris est content. Je voulais revenir sur une des rumeurs... Une des
attends un peu, parce que là, tu vas me dire un truc qui ne va pas me plaire.
Non, mais c'est toi qui vas me dire ton avis. Sur Trae Young, du coup. C'est The Athletic qui sort cette info. Alors, c'est quand même un média très sérieux aux États-Unis, The Athletic, qui dit qu'évidemment, Los Angeles veut récupérer une troisième star. Ça, c'est le cas depuis pas mal de temps déjà. Et donc, il y a toujours ce serpent de mer, Trae Young, donc le meneur de jeu des Hawks, qui sont 10e à l'Est, qui vont faire le play. Mais bon, pour quelles ambitions? Trae Young, cette saison, c'est 26 points de moyenne, quasiment 11 passes. Et donc, les Lakers, qui pourraient tenter le coup, sachant que Trae Young est sous contrat jusqu'à l'été 2026, donc ça veut dire qu'il faudra quand même lâcher des joueurs pour l'obtenir ou des tours de draft, et que potentiellement, les Lakers pourraient inclure D'Angelo Russell, Austin Reeves. Il y a aussi des options avec Rui Hachimura, Jared Vanderbilt. Bref, il y a un peu de matériel quand même pour essayer de contenter Atlanta. Mais en même temps, Trae Young, ça fait partie de ces joueurs un peu frissons de la Ligue. Alors, Chris,
oui.
T'as un avis, je le veux. Bonne ou mauvaise idée pour Los Angeles d'essayer de récupérer Trae Young?
Ben aujourd'hui, pour moi, ce sera une mauvaise idée. Une mauvaise idée parce que, tout simplement, ils ont fait le choix de garder D'Angelo Russell. On sait parfaitement bien que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Enfin, moi, j'aimerais pas les voir jouer ensemble.
D'Lo et
Trae Young. Oui, D'Lo et
Trae Young.
Voilà, non, mais
adverse,
quelque part, il faut encore prendre une décision. Je pense sincèrement, si D'Angelo Russell n'avait pas réagi quand il était sur le trading block, là, qu'ils auraient fait plus d'efforts, peut-être, Rob Pelinka, à faire venir Trae Young. Je le pense. Mais bon, là, ils ont décidé, voilà, D'Angelo Russell, voilà, il va être le meneur aujourd'hui. Il est clair pour moi que cette équipe des Lakers a besoin d'un vrai meneur. Parce que, bon, Gabe Vincent, je pense qu'il va revenir un peu, il va aider un peu, mais ça ne sera pas le meneur de l'avenir pour les Lakers. Donc, c'est vrai qu'ils ont des pièces aujourd'hui qui pourraient les permettre d'aller chercher quelqu'un qui, pour moi, Trae Young, c'est pas du tout. Si je paierais pour aller jouer, voir jouer, certes, mais pour faire gagner mon équipe un titre. Excuse me.
Moi, déjà, j'analyse un peu le truc sur d'où elle sort cette rumeur. Tu vois, j'essaie de comprendre la démarche.
Juste après la déclaration de LeBron, qui parle aussi de retraite, qui ne sait pas trop combien de temps il va continuer, qu'il est proche de la fin.
Le serpent de mer aussi, savoir jusqu'à quand LeBron jouera, t'as raison.
C'est ça.
Nico qui conditionne beaucoup de choses aux Lakers. Pourquoi cette rumeur de Trae Young aux Lakers? Déjà parce que t'es aux Lakers. Aux Lakers, t'es une franchise, la franchise glamour par excellence. T'as besoin de stars. Tu ne construis pas par la draft, c'est un fait quand tu es aux Lakers, tu construis par des trades, ça a toujours été comme ça. Shaquille O'Neal est arrivé en trade, même Kobe Bryant au final est arrivé en trade.
Davis.
Anthony Davis, bien sûr, récemment. Voilà, ou par la free agency, comme c'est le cas avec LeBron, par exemple. Pourquoi Trae Young? Pour deux raisons. D'une, parce que ça fait un an qu'il est dans toutes les rumeurs de transfert. Il y a trois mois, je croyais qu'il devait partir à San Antonio pour jouer avec Victor. Maintenant, il va partir aux Lakers jouer avec LeBron. Bon, ok. Et surtout, on va pas se le cacher, pour les gens qui sont un peu dans les coulisses du truc, l'agent de Trae Young, c'est Rich Paul, c'est Clutch Sport, et on sait très bien que Clutch et donc Rich Paul font la pluie et le beau temps à Los Angeles. C'est l'agent d'Anthony Davis, c'est l'agent historique de LeBron James. Il bosse avec Rob Pelinka, qui est le GM, enfin qui est au-dessus du GM, qui est président basket désormais. Donc voilà, on comprend un petit peu les coulisses du truc. Maintenant, si on est là pour discuter un peu fantasme, mais c'est un peu l'idée de ce podcast, bonne ou mauvaise idée Trae Young, moi je suis comme Chris, je pense que c'est une mauvaise idée. Je suis pas persuadé que Trae Young soit une pièce intéressante pour construire dans cette équipe où tu as déjà des mecs qui tiennent beaucoup la balle. LeBron, aux dernières nouvelles, est toujours là et tient beaucoup le ballon. Je suis pas persuadé que tu aies besoin d'un Trae Young, d'un mec comme ça à côté. Je fais partie des gens qui sont un petit peu, je sais pas, romantiques là-dessus, qui croient encore en fait que D'Angelo Russell peut faire l'affaire. Je suis pas persuadé que ce soit terminé. Je me laisse peut-être convaincre par sa fin de saison qui est bonne, mais j'ai envie de croire que D'Angelo Russell peut encore être un meneur à la hauteur de ce dont ont besoin les Lakers. Donc si tu me demandes, pour moi, Trae Young aux Lakers, c'est se refoutre dans les emmerdes à venir et c'est se créer des problèmes basket dont on n'a pas besoin aujourd'hui.
Mais il y a aussi tout ce côté, effectivement, LeBron James n'est pas éternel, même si des fois on peut quand même se poser la question, mais il y a aussi peut-être aussi du côté de Los Angeles de préparer cet après LeBron, ou quand LeBron va prendre sa retraite, on va pas juste rester avec Anthony Davis à Los Angeles, non. Il faudra au minimum une deuxième star. Regarde, est-ce que cette star, ça peut pas être Trae Young?
Moi je pense pas, je pense que quand t'es les Lakers, tu dois viser, je suis désolé de dire ça, parce que Trae Young est un joueur fantastique par bien des aspects, mais c'est pas un grand joueur de basket pour moi, et attention ce que je suis en train de dire là, je pèse mes propos. Oui, c'est un mec qui tourne à 30 points par match, qui régale, mais c'est pas... C'est pas
la pièce maîtresse d'une équipe
de basket,
qui vise le titre.
C'est Luka Doncic, c'est en devenir, j'espère, Anthony Edwards. Et tu vois, c'est des mecs comme ça sur qui je tape. Moi, quand t'es les Lakers, pour moi, la suite de LeBron, LeBron prendra sa retraite quand il l'aura décidé, lui. C'est normal, il a mérité ce droit-là. Et quand il l'annoncera l'année prochaine, dans deux ans, à cet été-là, tu verras qui t'as sur le marché. Et j'ai envie de croire que quand t'es les Lakers, tu peux viser un joueur d'un calibre supérieur à celui de Trae Young. Pour moi, on doit penser aux Lakers à avoir Anthony Edwards dans deux ans,
Shai,
à avoir pourquoi pas Shai dans deux ans, à avoir Luka Doncic dans deux ans. Désolé les fans des Mavs, je suis pas en train de dire qu'il va partir. Mais tu dois viser au-dessus de Trae Young.
100% d'accord. De toute façon, on parle de nos Lakers. Là, il faut faire attention, parce que pareil. Pour cette année... évidemment, D'Angelo Russell, début de saison, j'étais catastrophé. Je dis, il faut virer ce mec-là, il faut changer, on ne gagnera jamais des matchs avec lui. Puis tout d'un coup, il y a eu un certain changement, appelle ça la maturité.
Ouais, il était proche de la sortie aussi.
Être dos au mur, justement, il faut réagir. Donc il a réagi, et tout d'un coup, il a retrouvé son adresse. Mais pour moi, ce n'est pas un meneur créateur, ce n'est pas un meneur qui rend les autres meilleurs. Mais qu'il a un grand talent offensif. On avait vu quand il était drafté, on a vu un petit peu avec les Nets, on a vu avec les Warriors, mais s'il bouge autant et si on ne la garde pas, c'est que voilà, il a une spécificité dans son jeu qui fait que, pour cette année, on va y aller. Et je pense qu'on a envie de croire. Mais pour l'avenir, je ne pense pas que c'est le joueur qu'il faut non plus, et je suis comme Rémi, je pense que Los Angeles, malgré tout, ça sera toujours une franchise qui est capable d'attirer des grands noms, parce que c'est Los Angeles, parce que les affaires, les Lakers, ça peut marcher très bien là-bas.
C'est les voilà. Lakers, le glamour.
Mieux que Memphis.
Le maillot, ouais. C'est,
Oui, même un diamant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est tout à fait faisable. Je mets ça au-dessus du trait, parce que tout simplement, c'est les joueurs qui, je pense, qui a plus d'impact. On a vu l'année où Memphis était très, très bien. Diamant avait amené Memphis en haut du classement.
Sûr, ouais. Ce qui est marrant avec Trae Young, c'est que c'est un mec qui polarise, qui divise vachement l'opinion, en fait. Et ce que je comprends, parce que les fans aiment le voir jouer. Il est incroyable à voir jouer Trae Young. Moi, je l'ai vu à Abu Dhabi il y a un an et demi, là, quand il est en pré-saison. Je l'ai vu mettre 30 points sur une mi-temps. 30 points en première mi-temps, il joue pas en deuxième mi-temps. Et il nous avait régalé. J'étais le premier debout à hurler, tu vois. Et me dire, c'est quoi? C'est Michael Jordan sur le parquet, là. C'est incroyable. Mais sur une longueur, et on en parlait tout à l'heure du filtre d'une saison régulière, il y a encore trop de questions, de points d'interrogation sur sa capacité, disait Chris, à rendre les autres meilleurs. Sur sa capacité défensive, où on me dit de partout qu'il a progressé, je l'entends, mais ça part quand même d'assez loin. Donc voilà, moi j'ai quand même beaucoup de questions. Je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur choix pour complémenter Anthony Davis à terme, le jour où LeBron prendra sa retraite.
Puis c'est un joueur... moi, je connais son parcours à Oklahoma, c'est un joueur qui était fabuleux, mais on n'était même pas sûr en NBA qu'il pouvait avoir un impact, parce que physiquement, il est très frêle, il n'est pas... Voilà, c'est pas un bon défenseur du tout. Et je trouve, dans son état d'esprit, il a le complexe Napoléon. C'est-à-dire qu'il est petit, il est obligé de faire le cake des fois. Derrière ça, faire un 3 sur 20. Et puis, oui, effectivement, quand il est on, on l'a vu faire des matchs. On l'a vu faire des matchs au Madison Square Garden.
Si on t'avait dit, Nico, ce matin, que t'entendrais Chris parler de Napoléon dans le podcast, tu l'aurais cru.
Peut-être pas. Si, venant de Chris, pourquoi pas. Mais j'avoue, j'aurais pas mis une pièce dessus quand même. Napoléon. Mais ouais, Trae Young, c'est le complexe de Napoléon. Victor Wembanyama, allez, on avance un peu parce que là après on va être pris par le temps. Victor Wembanyama, aux Jeux Olympiques, quelle place et quel rôle pour lui en équipe de France? On rappelle que Victor Wembanyama, c'est pour le moment que 4 sélections avec les Bleus, c'est 4 victoires aussi, 2 contre la Lituanie, 1 contre la Bosnie-Herzégovine et 1 contre la République tchèque. C'était lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2023.
Que nous avions suivi sur beIN Sport.
Que nous avions suivi sur beIN Sport, tout à fait. Il y a évidemment quelque chose auquel on pense forcément. Victor Wembanyama en équipe de France, ça veut dire une association avec Rudy Gobert. Est-ce que c'est viable ou pas? Est-ce que dans le jeu FIBA, ça fonctionne? Et est-ce que ces deux profils qui peuvent être complémentaires sur un terrain de basket? Ça fait beaucoup de questions. Rémi, tu réponds. Est-ce que
c'est moi qui tiens le coach en face.
Oui, Chris, exactement. Allez.
Écoute, je pense que c'est un problème que tous les coachs aimeraient bien avoir. Ce qu'on a vu en NBA pour l'instant, c'est qu'il a commencé la saison en jouant 3, après on l'a bougé en 4 et la fin de la saison en poste 5. Donc on sait qu'il peut couvrir toutes ces positions-là. Il joue plutôt face, donc jouer avec Rudy, à mon avis, un entraîneur, il peut concevoir un attaque avec Victor qui navigue autour de la ligne de 3 points. Et qui peut rentrer, on sait qu'il a le drive, on sait qu'on peut alterner. Tu peux sortir Rudy et mettre la bouse, donc on sait sur le poste 4, c'est très très fort. Buzeli, hein, c'est ça.
Il y a Buzeli.
Il y a Buzeli.
Gershon, il n'y a pas, t'as dit la
bouse.
Oui, la bouse, c'est de quoi il parle.
Bon, maintenant.
De qui il parle?
Il parle de Gershon.
Gershon,
il y a Buzeli.
Oui. Défensivement, ça peut faire des ravages. Quant à Rudy, quant à Victor, qui sont dans le racket, la peinture, il faut quand même y accéder.
Tu as potentiellement les 2 meilleurs défenseurs NBA actuels. Enfin, on verra les classements du trophée de meilleur défenseur à la fin de la saison, mais Rudy, certainement numéro 1, et Victor ne va pas
jouer. J'ai juste un peu peur, enfin pas peur, non. Où il va falloir que les coachs ils se mettent vraiment dedans. C'est construire un jeu avec avec ces joueurs-là qui n'a jamais été fait. Donc, on va arriver au jeu, après une saison NBA, intégrer Rudy, Victor, avec tous les autres joueurs qui vont être là, ça va être un peu compliqué. Mais je pense qu'avec les deux là, résoudre le problème de meneur, parce que si vous n'avez pas le meneur, votre poste 5...
Tu veux qu'on prenne Trae Young, du coup, en équipe de France?
C'est ça, il est en difficulté.
Il ne sera sûrement pas avec Team USA. Donc
non, je peux faire Napoléon.
Ah, c'est quand même fantastique, Nick Audry. Ouais, réfléchir à cette histoire-là, d'avoir.
Oui, c'est des problèmes de riches,
Rudy et Wemby ensemble. Moi, je suis persuadé que ça va marcher. Je suis persuadé que dans le 5 de départ, Vincent va les faire débuter tous les deux, parce qu'il y a aussi des histoires de statut et de respect à avoir pour deux gamins, enfin deux gamins, un gamin, Victor, et un homme, Rudy, qui est quand même plus âgé, qui ont acquis et mérité ce respect tout au long d'une saison NBA fantastique pour l'un comme pour l'autre, à des registres différents, mais voilà. Moi, je pense, et Chris a mis le doigt là-dessus, qu'il ne faut pas oublier que le jeu FIBA est quand même très particulier et qu'on a quand même deux moteurs à l'intérieur, peut-être trois d'ailleurs, trois moteurs à l'intérieur là-dedans qu'il ne faudra pas oublier de la rotation, et je suis persuadé que Vincent fera très bien le boulot là-dessus, Vincent Collet. C'est Gershon Yabusele qui est en train de marcher sur l'Euroleague au Real Madrid, c'est Mathias Lessort qui est absolument incroyable aussi, et même Vincent Poirier qui fait plein de choses aussi en Europe. On a quand même la chance, il faut s'en rendre compte, d'avoir des intérieurs dominants français en Euroleague, qui est l'expression supérieure du basket FIBA, l'Euroleague.
Ouais, qui est l'élite du basket européen.
Donc les mecs connaissent très bien ça, il y a des mecs qui le connaissent beaucoup moins. On se souvient d'Yanis Antetokounmpo, jusqu'à présent en FIBA ça a toujours été compliqué. Ça peut paraître surprenant, mais un Gershon Yabusele jusqu'à présent a vachement mieux marché en FIBA qu'un Yanis Antetokounmpo par exemple. Donc faudra pas oublier ces gars-là de la rotation, ça va permettre à Vincent de pouvoir pianoter là-dedans. Moi je pense que Victor est tellement un joueur extraordinaire qu'il peut s'adapter à beaucoup de choses. Il peut s'adapter à ce duo à côté de Rudy Gobert, il peut passer en 5 avec Gershon Yabusele sur le poste 4, il peut être malléable à plein de niveaux, Victor, et moi je pense que ça va fonctionner. Cette association, elle va être fantastique. On va avoir une défense incroyable. Dans notre pool, on a au JO la France, on a l'Allemagne, on a le Japon et on a le vainqueur du TQO de la Lettonie.
Ouais.
Sachant que Lettonie,
Brésil, Monténégro, Philippines. Voilà. Grossièrement, c'est ça les équipes.
Il peut y avoir du monde. Pour moi, tu sais qu'en plus j'ai une affection pour le Monténégro et Nikola Vucevic qui veulent aller au JO d'ailleurs. Donc on va faire gaffe. Le Brésil, même si c'est une génération plus faible, on va surveiller. Sur le papier, c'est la Lettonie qui est favori. Là-dedans, Kristaps Porzingis. En Allemagne, t'as qui ? T'as Daniel Theiss, t'as des mecs comme ça.
Dennis Schroeder.
Mais moi, je pense à l'intérieur. Les mecs qui vont affronter.
Ouais.
Le Japon, bah, c'est une belle équipe. On les a joués en prépa l'année dernière, mais bon, c'est quand même un niveau un petit peu en dessous. Qui va venir se frotter dans notre raquette, là ? Mais tu sais qu'on peut même réfléchir à l'échelle de tous ces Jeux Olympiques. Aujourd'hui, Team USA, Joel Embiid, vu son genou, point d'interrogation, est-ce qu'il sera là ou pas, t'auras Anthony Davis, t'auras Bama Adebayo, t'auras des mecs de très haut niveau quand même.
Isaiah Hartenstein, j'apprends Hartenstein à Team USA. Il l'a dit l'autre jour.
On enverra le message à Steve Kerr.
En 12e homme, tu vois.
Et on lui demandera. Tu prends les gros pivots qu'il va y avoir, la Serbie, Jokic, est-ce qu'il sera là, pas là ? Il ne s'est pas décidé pour l'instant, apparemment. Peut-être la Lituanie, Domantas Sabonis, qui n'est pas qualifié encore. Moi, je pense qu'on va avoir la meilleure raquette du monde. Je veux dire, Rudy, Wemby, plus les trois que je t'ai cités en Euroleague, Yabusele, Poirier et Lessort, on a la meilleure raquette du monde en France. Alors, on a le problème du meneur, mais on a la meilleure raquette du monde.
Mais le dernier page, peut-être, de ce qui va être ce dossier-là, ce qui va être aussi important que le basket, parce que le basket, on sait que voilà, on a du talent, on va avoir du taille, on a du physique, c'est psychologiquement. Comment vont ces joueurs-là se mettre ensemble ? Quelle va être l'ambiance ? Parce qu'il y a deux joueurs. Victor, il va amener un engouement assez important.
Non, mais ça va être Michael Jordan en 92, hein, voilà, ça va être la Dream Team.
Comment les autres joueurs vont
réagir.
Parce qu'il ne faut pas oublier tous les gens qu'ils ont œuvré jusqu'à maintenant pour faire marcher cette équipe de France. Donc, si tout se passe bien au début, je pense que là, il n'y aura pas de soucis. Mais imaginons que ça je ne veux pas être négatif, mais imaginons que ça se passe moyennement. Tout le monde se regarde. Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? C'est Vincent Collet qui va avoir un travail énorme. Avec Kenny Atkinson, que je trouve c'est une super idée de le faire venir. Il connaît le monde NBA, il connaît le monde de France, voilà.
Il y a un respect aussi.
Un respect vis-à-vis
pour lui,
de...
quand même.
Il a toujours fait des très bons choix de rester où il est.
Charlotte.
Non. Donc voilà, je pense que si on arrive à maîtriser tout ça, si tout ça est pris en compte, effectivement... c'est que du optimisme.
Et quelle place pour lui dans la... On termine sur ça, dans la hiérarchie des Bleus en attaque. Parce que entre Evan Fournier, qui sort d'une saison, enfin, qui est en train de réaliser, mais c'est bientôt fini pour lui, une saison quand même qui est très compliquée, qui a retrouvé du temps de jeu à Détroit, sans pour le moment beaucoup de réussite. Nico Batum, on peut penser aussi à Nando de Colo. Mais est-ce que Wembanyama, ça doit être le joueur qui tire le plus en équipe de France?
Déjà, on va voir les joueurs que tu as cités s'ils seront tous au jeu. Moi, j'en suis pas persuadé aujourd'hui. Ça sera bien à Vincent de décider. Mais on va être très clair. Et ça, je pense que les joueurs l'ont tous compris. Ils sont suffisamment matures par rapport à ça. Ils le savent. L'option numéro 1 en attaque pour les Bleus cet été, ce sera Victor Wembanyama. N'a jamais modifié sa façon de jouer. Qu'il joue à l'époque en gamin avec Nanterre, qu'il joue en Betclic Elite avec le Valois, qui joue en NBA avec les Spurs, ça a toujours été la même chose en équipe de France, même sur ses 4 sélections. Il prend ses tirs incroyables, il s'amuse sur le terrain, ses shoots à 3 points sur une jambe, il fait ce qu'il a à faire. Et cet été, ce sera pareil. Ce sera lui notre arme offensive numéro 1.
Et il faut que ça soit dit. Il faut pas que ça soit dit tout le monde. Je suis d'accord, Rémi. Si tu n'utilises pas un joueur comme ça, avec tout ce qu'on a vu dans son talent offensif, dans son panoplie de choses qu'il peut faire, effectivement, les défenses FIBA, ce n'est pas la même chose. Ça va être beaucoup plus rude, beaucoup plus physique. Mais je pense que le plus important, c'est de le dire, à le faire, parce que jusqu'à maintenant, on a eu quelques problèmes avec définition de rôle. Qui fait quoi, à quel moment
Je pense que tu as raison et je pense que ça va faciliter la donne de tout le monde.
Les échecs passés peuvent servir les réussites.
Moi, je veux dire, l'année dernière, je l'ai vécu, cette Coupe du Monde. On était sur place pour Bean avec Jack et à Jakarta. Ça a été un échec terrible. Et quand les mecs se regardent entre eux, qu'on voyait Evan être le seul à mettre des points, mais qu'au final il se passait rien autour. Là, cette année, ça va être beaucoup plus clair. La hiérarchie va se faire automatiquement et les mecs le savent. Enfin, je leur ai pas parlé, j'ai pas parlé à Evan dernièrement, Nico un peu, mais bon, les mecs le savent. C'est évident, tout le monde est fan de ce que fait Victor et c'est même pas un manque de respect pour la carrière des autres, de Rudy, de Evan, de Nico et de Nando.
C'est une suite naturelle des choses.
Les lignes en bas, c'est que tout le monde veut gagner, tout le monde veut être compétitif. On sait qu'on a les yeux du monde.
C'est trop important, t'as raison.
C'est trop important pour penser à sa personne individuellement. Je pense que tout va être fait. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche? On a la chance d'avoir un des meilleurs grands au monde. Il faut l'utiliser.
Ouais, il faut foncer. Ok, écoutez, merci messieurs. Voilà, on a dépassé un tout petit peu le timing. Merci pour votre disponibilité. C'était très
Nico.
Sympa.
Merci, welcome.
J'ai beaucoup apprécié ce podcast avec vous. Voilà, sachez-le. J'espère vous aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.
Avec plaisir.
Bye. Oh my goodness, my goodness.